Enfantillage.
Ma poupée va manger des poissons bien salés.
Alors, Gruffalo,
dit la petite souris,
tu as vu? Tout le monde a peur de moi.
Elle était le dernier d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt.
Mais vous êtes sûr qu'il est si méchant?
Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Enfantillage, le rendez-vous des enfants qui aiment lire et des grands qui ont su garder leur âme d'enfant. Au micro, Florence Dutheil. Saluons sans plus tarder notre invité.
Roland Fuentes, merci de venir au micro d'Enfantillage.
Merci à vous de m'avoir invité, bonjour.
Roland Fuentes, vous êtes auteur et vous aviez 6 ans quand vous avez pris la décision de le devenir. Un temps dégoûté de lire par vos cours de français que vous jugiez asséchants et barbants. Vous avez renoué avec la littérature en vous détournant des textes au programme. Dans vos romans pour enfants et ados, publiés chez Syros et Nathan, vous explorez avec obstination ce mystère qu'est un écrivain, en campant souvent des doubles de papier. Nageur de haut niveau, vous en avez le calme et la carrure, et vous aimez situer vos intrigues au bord des bassins ou près de la Grande Bleue. Né à Oran, vous êtes révolté par le racisme. Dans votre dernier opus pour adolescents, Vivant, vous explorez finement le bouleversement qui s'opère chez certains en présence d'un étranger. Toujours, vous cherchez pourquoi les mots, la page, le livre nous fascinent, faisant vôtre la devise de Reverdy. Si les mots sont à tout le monde, vous êtes tenu d'en faire ce que nul autre n'en ferait. Roland Fuentes, maintenant que les présentations sont faites, avant de vous écouter nous parler de votre œuvre, la parole à Rémi. À chaque émission, il nous parle de ce qu'il a lu et aimé dans mon livre préféré.
Je m'appelle Rémi, j'ai 8 ans.
Eh mais ça va pas la tête, maintenant j'ai 9 ans.
Je suis un énorme lecteur. Un jour sans lecture, c'est comme un jour sans repas, quoi.
Mon livre préféré.
Aujourd'hui, je vais vous parler de « Je ne suis pas un héros » de Sophie Adriansen. L'histoire est racontée par Bastien, un garçon de 9 ans comme les autres. Ou peut-être un garçon qui a un peu plus de chance que les autres. Car Bastien a une chambre à lui dans un vaste appartement avec vue sur l'Arc de Triomphe, une dame qui fait le ménage 2 fois par semaine et une animatrice au goûter d'anniversaire. Il passe ses vacances au ski l'hiver et à la mer l'été et parfois l'inverse. Ses week-ends au grand hôtel de Cabourg et à des tas d'activités le reste du temps. Donc oui, Bastien et sa petite sœur Capucine ont plutôt beaucoup de chance. Alors, quand leur mère, un jour de pluie, décide que la maman qui mendie sur le trottoir avec ses deux filles, là, juste en bas, devant la boulangerie, ça suffit, et qu'elle les invite à dormir dans la chambre d'amis, les deux petits parisiens gâtés du parc Monceau voient leur monde douillet exploser. Bastien surnomme en secret Nikki, Sorina et Magda les olives à cause de leurs cheveux noirs corbeaux. Il serait prêt à vider sa tirelire pour les faire partir. Capucine, elle, les observe comme s'il s'agissait de personnages d'un livre illustré qui s'animerait rien que pour elle. Les fillettes roumaines ne se sont pas lavées depuis 3 mois, car comme les bains municipaux sont interdits aux mineurs, leur mère les lave vite fait au robinet d'eau froide du square. Elles ont si faim qu'elles attrapent les spaghettis à pleine main. C'est le début des vacances de printemps. Pas question pour Bastien de se laisser gâcher son grand plaisir, finir son puzzle de 1500 pièces au calme. Comme dans son jeu de patience, il aime quand chaque chose est à sa place. Alors, les olives qui courent partout dans l'appartement, c'est non. Mais l'hospitalité est quelque chose de très important, lui explique sa grand-mère Mamilène. Tu ne serais pas là si un inconnu ne s'était pas montré accueillant avec notre famille, en cachant ton arrière-grand-père pendant la guerre. Alors, Bastien s'habitue peu à peu, et on se dit que tout va s'arranger. Une association aide la mère à trouver un travail et les filles à aller à l'école. Et puis, patatras. Héberger une famille en situation irrégulière, ça porte un nom, le délit de solidarité. C'est illogique aux yeux de Bastien, mais on risque de graves ennuis avec la justice parce qu'on s'est simplement montré généreux et qu'on a aidé quelqu'un. Des enfants comme Sorina et Magda, qui passent la journée par terre dans la rue ou dans le métro, on en croise hélas tous les jours. Pour une fois, avec ce roman, on a l'occasion de se mettre à leur place et de comprendre que vraiment, un monde comme ça, ça ne va pas. Je vais vous lire un extrait. Je me souviens du dimanche où nous sommes allés au parc Monceau, juste après l'arrivée des olives. J'avais réussi à voir différemment ce lieu que je connais par cœur. Et la mer, quand on la découvre pour la première fois, ça fait quoi ? J'essaye d'imaginer. Ce n'est pas simple. La mer, ça ne ressemble à rien d'autre. Est-ce que j'oserais me baigner ? Est-ce que j'aurais envie de la goûter ? Je n'en ai aucune idée. Ma première fois à moi, je ne m'en souviens pas. Mamie Hélène montre aux olives comment entendre la mer en plaçant un gros coquillage contre son oreille. Magda et Sorina sont tellement stupéfaites qu'elles vérifient que ça fonctionne avec tous les coquillages assez gros pour couvrir leurs oreilles. Mon livre préféré !
Je ne suis pas un héros de Sophie Adriansen est publié aux éditions Fleurus dès 9 ans.
Vous écoutez Enfantillage, le magazine des livres pour les 0-15 ans qui s'écoute et qui se lit. Roland Fuentes est l'invité de Florence Dutheil. Retrouvez la chronique de Rémi et les livres de Roland Fuentes sur le site d'Enfantillage, florencedutheil.wixite.com.
On vient d'écouter Rémi qui, comme à chaque émission, nous a parlé de sa dernière lecture. Ça m'amène à vous poser la première question rituelle d'Enfantillage. Roland Fuentes, quel enfant lecteur étiez-vous ?
J'ai commencé par lire beaucoup de bandes dessinées. J'étais abonné à Pif Gadget jusqu'à très tard. Et je crois que le premier livre que j'ai lu en entier, c'était Les aventures de Jojo Lapin de Enid Blyton, ou CE1, CE2, j'ai dévoré beaucoup de livres de la bibliothèque rose, de la bibliothèque verte, et toujours beaucoup de bandes dessinées.
Est-ce que vous avez continué à lire à l'adolescence ?
Des bandes dessinées, oui, parce qu'on ne me les a jamais faites décortiquer en cours, mais malheureusement, le cours de français a failli me dégoûter de la lecture de littérature. Entre la 4e, 3e et la 3e année de fac, de lettres, j'ai pas beaucoup lu, à part les œuvres au programme, ça m'embêtait. C'était devenu un exercice scolaire, il fallait décortiquer les livres, il fallait trouver les chiasmes, les allitérations, les champs sémantiques. Au bout du compte, j'avais l'impression de pas mieux comprendre qu'à la première lecture. Après, heureusement, je me suis remis à lire et je suis redevenu un boulimique de littérature, mais il y a eu quelques années pendant lesquelles j'étais déstabilisé par la façon dont on nous présentait la littérature. Il fallait que ce soit sérieux. On nous faisait lire à l'époque que des auteurs qui étaient morts depuis très longtemps. Ils étaient tous en noir et blanc. Ils faisaient tous la tête, les écrivains du 19e siècle. Et on ne leur disait pas de faire ouistiti sur les photos. C'était devenu quelque chose d'austère et j'ai failli arrêter de lire.
Quel a été le déclic pour que vous repreniez le chemin de la bibliothèque ?
Je crois que ça a été une dissertation à la fac, moi j'étais en allemand, en troisième année. C'est la meilleure note que j'ai eue, j'avais pas de bonnes notes en dissertation, j'ai jamais trop compris ce que c'était. Et j'ai eu une bonne note pour une fois sur un livre que j'avais pas lu. Et là je dis non, c'est vraiment n'importe quoi, la littérature elle est faite pour être lue. Et du coup je me suis remis à lire, mais essentiellement des œuvres qui n'étaient pas au programme et que j'avais envie de découvrir.
Comment de lecteur êtes-vous devenu auteur ? Racontez-moi l'histoire de votre premier livre publié.
C'était en 2000, un petit roman fantastique pour adultes qui était paru chez un petit éditeur, Fer de Chance. Le roman s'appelait Le Musée. Ça m'avait encouragé, mais malheureusement le petit éditeur a fait faillite au bout de 2 ans. Avant ça, il y avait eu quand même pas mal de nouvelles publiées dans des revues, des magazines. J'arrivais pas encore à faire accepter un livre, mais à chaque fois que j'avais quelques pages dans une revue, ça m'encourageait. Après, il y a eu un recueil de nouvelles qui m'avait valu le prix Prométhée de la nouvelle, qui avait été publié au Rocher. Les livres étaient présents dans beaucoup de librairies. Ça m'a valu quelques commandes de textes à l'unité. Mais cette premier livre, c'était pour adultes. J'ai eu des enfants, à force de leur lire des albums que j'ai trouvé géniaux. Je me suis dit, moi aussi, j'aimerais bien essayer de faire ça. Et après, je me suis retrouvé complètement dans l'écriture pour la jeunesse. Mais je continue à écrire pour les grands, puisque les 2 derniers livres sont pour ados-adultes.
L'écriture, c'était aussi une activité pendant votre jeunesse ?
Bizarrement, même si j'ai failli arrêter de lire, j'ai toujours voulu devenir écrivain. Depuis l'âge de 6-7 ans, je dessinais un petit peu aussi, donc je ne savais pas si ce serait des bandes dessinées ou des romans. Je n'ai pas poussé plus loin, je n'ai pas pris de cours de dessin. Je suis un amateur de BD. Mais l'écriture, oui, j'ai toujours eu dans la tête l'idée qu'un jour ce serait mon métier. J'écrivais des petites histoires que j'ai conservées, qui sont dans un carton au grenier. Depuis l'âge de 6 ou 7 ans, j'ai jamais arrêté d'écrire.
Quand on a 6 ans, qu'est-ce que c'est un écrivain? Quelle image vous faisiez-vous de cette activité?
Ouais, avant de découvrir ça de l'intérieur, on a des drôles d'idées sur le métier. Mais je savais que c'est quelqu'un qui racontait des histoires par écrit et que ces histoires voyageaient grâce aux livres.
Vous avez enseigné l'allemand. Quelle relation vous avez avec cette civilisation, cette langue, cette culture germanique? Est-ce que le fait d'avoir une connaissance très fine et technique d'une langue étrangère, ça a une répercussion sur votre écriture?
Oui, j'ai été professeur d'allemand parce que tout le monde me disait que c'était bien de vouloir être écrivain, mais qu'il valait mieux, au moins au début, avoir un métier à côté. J'aimais bien les enfants et les langues étrangères. J'ai été prof d'allemand pendant 10 ans, à mi-temps. Et l'autre moitié du temps, j'écrivais. Et là, c'est la 11e année où j'ai arrêté d'enseigner. Pas par dégoût de l'exercice, parce que j'ai des bons souvenirs de mes années d'enseignement. Mais c'est parce que j'avais besoin vraiment de tout mon temps pour écrire. À l'époque, je me relevais la nuit, ça ne me suffisait pas, même à mi-temps. C'est l'amour des mots français, des mots de toutes les autres langues. Si je pouvais parler 150 langues, je serais content. J'ai fait un petit peu de traduction aussi, j'ai traduit 5 livres et ça ressemble vraiment beaucoup à l'écriture une fois que le premier jet est posé pour réécrire un texte qui a été écrit par quelqu'un d'autre qu'on doit essayer de rendre accessible aux gens qui ne comprennent pas cette langue étrangère. Il faut se pencher sur chaque mot, décortiquer, j'adore ça.
Vous avez aussi écrit des romans en partie bilingues. C'est intéressant la façon dont la langue étrangère intervient dans la fiction, dans les dialogues. Racontez-nous comment ça se passe.
C'est une collection qui a été créée par Stéphanie Benson, qui est auteure adulte, auteure jeunesse, qui est anglaise d'origine, qui a habité 30 ans à Bordeaux, donc elle est parfaitement bilingue. Et elle a proposé à Cyros des romans qui commenceraient en français et qui accueillerait de plus en plus d'expressions, de phrases, de paragraphes en anglais, et qui se terminerait complètement en anglais. Le dernier chapitre était complètement en anglais, elle en a écrit quelques-uns, et ensuite elle est devenue directrice de cette collection qui s'appelle Tiptong, et j'en ai écrit deux, niveau deuxième année d'allemand.
À plusieurs reprises, vous avez un petit peu fait pénétrer le lecteur dans les coulisses de l'exploit. Je pense évidemment au livre « Comment on écrit des histoires ». Et puis, il y a cette série sur l'écrivain dans le jardin, ce double fictionnel Christian Rivage. Quel est ce plaisir que vous avez à briser ce fameux pacte de lecture et à tout révéler de la cuisine littéraire ?
C'est venu d'une expérience que j'avais faite, mais pas en tant qu'auteur, en tant qu'organisateur de Salon du Livre, dans une petite ville du Haut-Jura qui s'appelle Saint-Claude. J'avais pris plaisir à organiser, inviter des auteurs, des dessinateurs. Entre cette expérience-là et puis ensuite celle que j'ai connue en tant qu'auteur, qui est invité à différents salons, ça m'a donné envie d'écrire un livre qui parlerait d'un petit garçon qui rêve de devenir écrivain et qui a la chance pendant 3 jours d'accueillir chez lui son écrivain préféré. On lui a raconté des tas de choses sur les écrivains. Il s'imagine que c'est des demi-dieux. Il est très impressionné quand l'écrivain est chez lui, sur le canapé. Il appelle son copain, il dit « qu'est-ce que je fais ?» Il dit « propose-lui à boire ». Mais ça boit quoi un écrivain ? C'était l'idée de délirer un petit peu sur cette image qu'on a des écrivains, que j'avais moi aussi quand j'étais petit. Et puis parler de l'organisation d'un salon du livre. Le livre avec Yaël Hassan, « Comment on écrit des histoires ». C'était une idée des éditrices de Cyros qui nous ont dit « Tiens, bah, vous allez reprendre 25 questions qu'on vous pose souvent dans les rencontres scolaires. » Et chacun va répondre à 12 ou 13 questions. Donc on répond sérieusement. Et les personnages de nos séries prennent la parole. Ils disent des choses parfois un petit peu farfelues. Donc c'est un livre un peu sérieux, un peu délirant sur le métier d'écrivain.
Vous écoutez Enfantillage, Roland Fuentes est l'invité de Florence Dutheil.
Comme la plupart des gens, je croyais que les activités artistiques, il suffisait d'être génial, il fallait pas travailler, il suffisait de regarder dans le firmament et puis d'avoir une idée géniale et puis d'écrire. Et qu'une fois que la page était remplie, on avait fini d'écrire. J'ai découvert que, en réalité, l'idée c'était 1% du travail et que la page, aujourd'hui je l'ai réécrit à peu près 20 fois. Des fois c'est 21, des fois c'est 19, mais ça tourne autour de 20 réécritures pour chaque page ou pour chaque histoire. Et ça j'ai dû l'apprendre en écrivant parce que soit on ne me l'avait pas dit à l'école, soit je n'ai pas écouté ce jour-là. Associer le mot travail au métier artistique, je ne savais pas. Maintenant, je sais.
Vous ancrez vos récits dans la réalité. Je pense par exemple à ces nageurs passionnés d'olympisme dans l'éthique olympique. Quel est votre rapport au réel ?
J'essaye toujours de parler du sujet que je connais au moins un peu. J'ai aussi dans mon coffre d'idées en vrac, des tas d'idées d'histoire, mais sur des sujets que pour l'instant je ne maîtrise pas du tout. Je les garde de côté. Et la natation, c'est mon autre grande passion avec l'écriture. J'en ai fait beaucoup quand j'étais petit, j'en fais toujours aujourd'hui. Je m'intéresse à toutes les compétitions. Naturellement, j'avais envie de parler de ce sujet.
Le jeune héros a des tocs. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'aborder ce thème du handicap ?
Moi, ça m'est arrivé quand j'étais petit d'avoir des tics ou des tocs. La frontière n'est pas forcément très nette. Et j'avais remarqué qu'une fois que j'étais à fond plongé dans une activité, bien sûr, ça disparaissait. Certains tennisman ont des tics épouvantables. Par exemple, Rafael Nadal. Et une fois qu'il joue, bien sûr, il n'en a plus. Et du coup, j'avais envie de mettre en scène un petit garçon qui est très anxieux et qui essaye de se guérir en attaquant le mal par le mal, en se mettant devant les Jeux Olympiques, quelque chose qui pour lui a du suspense, et en essayant de ne pas cligner une seule fois de l'œil pendant la finale olympique d'Alain Bernard. C'est normalement une situation qui est très anxiogène. Quand on n'est pas acteur et qu'on regarde un film à suspense ou une compétition sportive, lui il a plutôt tendance à avoir plus de tics que d'habitude, donc il s'est donné pour défi de ne pas cligner une seule fois de l'œil.
Nouveau, tout beau.
Les voyages forment la jeunesse, alors vite, on se fait la malle. Comment dit-on bonjour en maori, en suédois, en magyar, en swahili, en sioux, en guarani? Pour le savoir, partons en voyage linguistique polyglotte dans le monde entier avec Hello Atlas de Ben Handicott, illustré par Kenneth Pack. Chaque langue est présentée dans ses particularités et en fin de volume, il y a le béaba pour communiquer sous toutes les latitudes. En prime, on écoute des locuteurs natifs via une appli. Chez Little Urban, dès 5 ans.
Szia, örvendek. Hogy hívnak? Eszter vagyok.
Mille fois, Angelo, qui fait la taille d'une demi-fourmi, a vagabondé dans sa tête sans oser franchir le pas. Mais cette fois, c'est parti, il entreprend son voyage de poche. Muni de gouttes de rosée pour la soif et de poudre de pépins de pomme, le minuscule héros de Séverine Vidal, illustré par Florent Piget, embarque dans une coquille de noix à la découverte du monde derrière le lac. Une histoire comme ça des éditions Alice Jeunesse, dès 6 ans. Qu'ils partent de Séoul, d'Ushuaïa, d'Harare ou de Sydney, tous les petits protagonistes d'Un jour sur Terre et alentour de Gwendoline Resson, illustrée par Noémie Malbec, mettent les voiles après avoir reçu de mystérieux messages. Où vont-ils ? Se pourrait-il que leurs chemins se croisent ? Réponse dans la double page centrale chez Belin Jeunesse dès 3 ans. Et si c'était chez nous que des visiteurs venus de l'espace s'offraient une petite escapade exotique? Soyons clairs, si le président roi des Schmurgols envoie des émissaires sur Terre, c'est moins pour le tourisme que pour nous envahir. Avec une ironie distanciée et référencée, mention à Mars Attack et Godzilla, SOS les soucoupes rapliques d'Agnès Ernoux, illustrée par Pog, pose un désopilant regard alien sur nous et nos chats, Marmaille et compagnie, dès 6 ans. Retour sur la terre ferme avec Trépidante ville pour petits explorateurs, Elisabeth Dumont-Lecornet, illustrée par l'atelier cartographique, nous entraîne dans un tour du monde citadin de Tokyo à Venise en passant par Rio et Saint-Louis du Sénégal. Pourquoi pas un cours de tango à Buenos Aires, du tai chi à Hanoï, du vélo à Amsterdam et une bonne orange pressée sur la place Jemaa el Fna à Marrakech. Sûr qu'en refermant le livre, les globe-trotteurs en herbe auront la bougeotte aux éditions Belin Jeunesse, dès 6 ans.
Tout nouveau, tout beau.
On ralentit le tempo le temps d'une escale à Lisbonne avec les ballades dessinées de Valérie Linder par petites touches et une série de verbes. Se préparer, respirer, chercher, cadrer. L'auteur nous guide dans de poétiques déambulations où les pastels dépaysent le regard. Le pointillé jaune du tram, le bleu des carreaux de faïence, le vert des palmiers de Belém, tout est là de la capitale portugaise. Le dessin voyage le paysage, dit joliment le texte. Aux éditions Chandaigne, tous âges. On s'éloigne encore jusqu'aux portes du Sahara avec Jaune désert d'Éric Battu. Cet album réussit l'exploit de rendre palpable l'expérience sensorielle et quasi existentielle du désert. Sable brûlant, soleil de plomb, silence rayonnant, on y est. Chez l'Élan Vert, dès 3 ans.
Il est 5 heures,
qu'on y vive ou qu'on y séjourne, comment résister au charme de Paname ? Le livre à puce, mes plus belles chansons sur Paris, des éditions Grund, embarque les tout-petits en musique. Tout observateur attentif remarquerait qu'Akiko s'ennuie. Tous, sauf le professeur Goupil de Loïc Clément, illustré par Anne Montel. Dandy comme le Mr. Fox de Wes Anderson, le renard est si casanier qu'il n'a rien vu venir, saisissant des seins où il découvre la lettre qui lui vrille le cœur. « Si tu me cherches, je suis partie au bout du monde. » Akiko s'est fait la belle. « Je n'aimais pas l'idée d'aller dehors à deux, mais je déteste encore plus l'idée de rester dedans tout seul. Pas le choix. » À lui, le vaste monde, en quête de l'élu de son cœur. Si seulement il avait prêté attention aux majuscules. Aux éditions Little Urban, dès 6 ans. Grand-mère ne se souvient plus d'hier, mais elle connaît le monde comme sa poche. Sa maison est remplie de souvenirs de ses ailleurs. Les voyages de ma grand-mère se font désormais dans sa tête, et la petite narratrice de Juliette Rix, illustrée par Christopher Corr, accompagne sa mamie sans la juger ni s'attrister, là où les adultes se désolent de voir chavirer la vieille dame. Un album pudique et qui parvient à rester gai sur ce moment où l'âge venant, on quitte peu à peu les rives de la raison, aux éditions Gallimard Jeunesse, dès 3 ans. Basile aussi a une grand-mère formidable et elle a gardé toute sa tête. Pour la toute première fois, il va passer ses vacances chez elle. Sera-t-elle la mamie confiture que sa voisine Luna lui décrit ? Pas du tout. Ni crêpes, ni tricot, ni promenade digestive autour du lac. Le truc d'Adèle, c'est l'action. Roller, piscine, kayak et au lit sans lire d'histoire. À bas les dictates, il n'y a pas une seule façon d'être une vraie grand-mère. Un album de Caroline Rock, illustré par Estelle Mans, aux éditions Mijad, dès 3 ans.
Tout nouveau tout beau, la suite.
Les grand-mères restent à l'honneur de 2 autres livres, aux antipodes l'un de l'autre. L'arbre de Sobo de Marie Cellier, illustré par Charlotte Gasteau, beau livre aux éditions de la Réunion des musées nationaux, évoque avec émotion tout ce que Sobo, la brodeuse de kimono, a transmis à Kimi avant de mourir. Dans le cadre sublime d'un Japon rural intemporel et animiste, où les animaux tissent le lien entre esprit et vivant, c'est une très belle histoire de transmission dès 6 ans. Changement total de registre avec La foi où Mémé a vaincu un taureau de Vincent Cuvelier, illustré par Marion Pifaretti, une nouvelle série légère et pétillante comme des bulles de champomis, où l'auteur à l'insolence légendaire restitue l'époque où Mémé passait ses jeudis à garder les vaches avec Mimille, le garçon simplet de la ferme d'à côté. Déjanté et désopilant, chez Nathan dès 3 ans.
Tout nouveau tout beau, la suite.
Pour finir, 4 livres pour célébrer l'écriture et la lecture tout l'été. En variation sur les histoires comme ça, où Kipling inventait la naissance de l'alphabet, Jean-Philippe Arouvigno, illustré par Tali Ebrard, trousse un conte où il imagine comment Akuba inventa l'écriture. Il était une fois un pays très lointain où les enfants étaient atteints d'une très étrange maladie. Tout ce qu'ils apprenaient à l'école le jour, ils l'oubliaient la nuit. Alors, Akuba le malin, bravant les éléments, trouve l'antidote au côté ardoise magique de nos mémoires défaillantes. Il crée l'écriture qui sait conserver tout ce que les hommes savent depuis le début des temps. On sait bien que ce n'est pas vrai, mais c'est tellement bien fait qu'on y croit dur comme fer. Le lapin qui ne disait rien de Bruno Gibert est une énigme pour la ferme comme pour la science. Et s'il se taisait pour mieux écouter et écrire. Adorable album au graphisme rétro qui rappelle l'atmosphère des contes des chats perchés de Marcel Aimé, chez Sarbacane dès 3 ans. C'est la cata, le mage Biblius est enfermé dans son livre. C'est à toi de répondre à son appel au secours. Délivre ce livre de François Anosé, illustré par Grégoire Mabir, donne donc au lecteur la place qui lui revient, la première. L'enfant manipule le volume et prononce la formule libératoire, c'est jubilatoire, chez Mijad, dès 5 ans. Finissons cette promenade bibliophile avec une histoire d'amour. Il lisait de Fabrice Melchiot, illustré par Joël Drédemy. Regarder l'autre, l'écouter, c'est lire. On voit bien que lire change tout. Tu es ce petit bloc de concentration qui marche à contre-courant. Tu es ce petit monde chargé de mystères et de silence qu'on n'ose pas déranger. Inspirant petit fascicule, en ode à ces quelques centimètres carrés de liberté supplémentaire, les livres, chez l'Élan Vert, tous âges. Allons tous au parc d'attractions littéraires de la Courneuve, au programme des réjouissances organisées par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis, des tas d'activités, d'ateliers, de jeux et de lectures autour des quatre éléments et de l'imaginaire avec plein d'auteurs et artistes invités. I love Paris
in the summer. Retrouvez les livres de Tout Nouveau Tout Beau et de Roland Fuentes sur le site d'enfantillage florencedutheil.wixsite.com.
Le sport, qu'est-ce que vous y trouvez comme valeur, comme source d'inspiration ?
J'ai fait un sport qui n'était pas professionnel, la natation. Ça m'a appris à respecter des gens qui travaillaient beaucoup. On nageait 4 heures par jour à l'époque. Aujourd'hui, ils nagent encore plus. Il y a toujours un bon esprit en général dans la natation. Il n'y a pas vraiment de chauvinisme. Et le public qui vient assister à ces compétitions, il vient pour voir un exploit sportif. Oui, on a envie d'arriver premier, on a envie de toucher avant les autres, mais on n'a pas envie de leur faire du mal. J'ai jamais eu envie de détruire mes concurrents.
À la fois la pulsion du mal et puis l'esprit de clocher poussé à l'excès qui ferait que l'autre, celui qui est différent, on a envie de l'éliminer. C'est traité dans votre roman Vivant, où donc il y a ce jeune homme Elias, qui est l'élément exogène qui arrive dans ce groupe d'étudiants marseillais. Et qui va faire peu à peu vaciller le groupe, qui va remettre en question tous les repères. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer dans cette histoire ?
Au départ, ça aurait dû être un roman de science-fiction avec quelqu'un qui venait d'ailleurs, mais vraiment de notre planète, un extraterrestre doté de pouvoirs. Et puis finalement, c'est devenu un roman plutôt réaliste, même si le personnage a des pouvoirs à la limite du surnaturel. Il a une patience, une gentillesse qui n'existe presque pas dans la réalité. J'ai souvent été sensible à la place de l'individu dans un groupe. Moi, j'ai pas été trop victime de racisme en tant que Français, en France, blanc, mais je suis témoin tous les jours pratiquement de comportements racistes. Il se trouve que j'ai vécu mon enfance en Algérie parce que mes parents étaient Français, mais ils sont allés 10 ans en coopération à Oran. Moi, j'y suis resté 8 ans et puis on y retourne. On a toujours des contacts avec plusieurs familles là-bas. Donc je suis assez sensible quand j'entends dire du mal, par exemple, des Arabes, mais pas que des Arabes.
Qu'est-ce qu'il y a de particulier à écrire en sachant qu'on va être lu par des enfants ou par des adolescents ?
Les deux derniers livres, Vivant et Tant que durent les rêves, s'adressent à des ados adultes. Je pense qu'il y a 20 ans, cette catégorie d'âge, elle n'existait pas, ça serait paru directement en adulte. J'écris d'abord une histoire et après je me pose la question, est-ce que ça peut être compris par un enfant tout petit ou pas ? Et c'est à partir de là, je l'oriente vers une collection pour petits, moyens, grands. De toute façon, toutes les histoires que j'écris, je sais qu'elles sont lues par des adultes, soit par les parents qui lisent à leurs enfants, soit par les professionnels du livre, les libraires, les bibliothécaires, les enseignants. Et je rencontre de plus en plus sur les salons du livre des adultes. Je dis, c'est pour qui ? Ils disent, c'est pour moi. Je trouve que c'est la catégorie dans laquelle il s'est vraiment passé quelque chose ces 20 dernières années en littérature, une catégorie où les genres s'interpénètrent, se mélangent. Moi, j'attendais ça depuis longtemps. J'étais un petit peu dérangé avant par les étiquettes roman de science-fiction, roman d'anticipation, roman fantastique, roman historique. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu en train de voler en éclats. Tout ça, on peut écrire des romans historiques avec des ingrédients fantastiques ou même de science-fiction. C'est une période qui me plaît bien, une catégorie littéraire qui me plaît bien.
Roland Fuentes, merci d'être venu au micro d'Enfantillage.
Merci de m'avoir invité.
Enfantillage. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants.
Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous réécouter et retrouver toutes les références des livres sur la page et sur le site d'Enfantillage. Bonne lecture à toutes et à tous. À la prochaine fois.